BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour, il est 9h passé de 31 minutes, vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts, on est ensemble pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité économique du jour avec ce matin cette grande question, la France peut-elle éviter le décrochage? C'est la question posée par le MEDEF qui vient de publier une nouvelle édition de ces fameuses cartes sur table qui existent depuis près de 20 ans maintenant. La France peut-elle éviter le décrochage sans aggraver ses déficits? C'est aussi la question qui se pose. Le MEDEF, lui, propose 30 milliards d'euros de baisse de cotisations pour rapprocher le salaire brut du net. Ce sera évidemment l'un des grands débats de la présidentielle. Mais entre hausse de la TVA, de la CSG et des économies, peut-on vraiment alléger le travail sans déplacer la facture vers les ménages? Et puis on verra aussi la contre-attaque du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale qui dit que non, finalement, il n'y a pas d'écart entre le brut et le net depuis près de 30 ans. On va voir ce qu'en pensent mes experts. Et puis le deuxième débat, ce sera le Brexit. Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans du Brexit. Et oui, 10 ans déjà. Et 10 ans après, le Royaume-Uni a-t-il finalement repris le contrôle? Souvenez-vous, c'était la promesse hein, à l'époque. Take back control. A-t-elle repris le contrôle ou a-t-elle perdu le Nord? Aujourd'hui, la croissance est affaiblie au UK. La livre est sous pression. Stabilité politique de retour puisque Keir Starmer, le Premier ministre, vient de présenter sa démission. Alors, le prochain Premier ministre pourra-t-il réparer les dégâts sans rouvrir le dossier européen? Ce sera le deuxième débat des experts ce matin. Et puis, nous parlerons aussi des fonds vautours après la publication du rapport parlementaire de la députée de la France Insoumise, Aurélie Trouvé, présidente de la Commission des affaires économiques. Ils arrivent parfois en sauveur, mais certains repartent avec la trésorerie, les actifs et les aides publiques. Comment protéger les entreprises sans faire fuir les capitaux dont elles ont besoin? Ce sera le troisième débat aujourd'hui. Et puis, on reviendra évidemment sur le décès d'un géant de la finance, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan. Génie des marchés ou père de la crise financière? On verra ce qu'en pensent mes experts. Voilà pour le menu du jour. Il est 9h, passé de 33 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Valérie Plagnol. Bonjour Valérie.
Bonjour Raphaël.
Présidente du Cercle des épargnants. À vos côtés, Frédéric Farah. Bonjour Frédéric, économiste, professeur à l'Université Paris 1 et Bertrand Rambaud. Bonjour Bertrand.
Bonjour Raphaël.
Président de Siparex. Alors on va commencer par le message du MEDEF publié hier, ce carte sur table qui dresse un peu le bilan de l'économie française au moment de l'entrée en campagne présidentielle. Bon, il y a deux sujets. Un, il y a le décrochage. Deux, on va discuter ensemble des voies et moyens de rapprocher le salaire du brut. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'idée que les charges, les cotisations sociales, le financement de notre modèle social pèse sur les salaires nets. Ça sera la deuxième partie du débat. Mais d'abord, Valérie Plagnol, je me tourne vers vous. Est-ce que vous estimez que la France décroche?
Le bilan, il a déjà été fait, le diagnostic a été porté et le décrochage, on l'a vu. Et on l'a vu sur l'évolution de la dette, des finances publiques. Les finances publiques, la fiscalité, nous sommes à peu près 10 points au-dessus des moyennes de l'OCDE, de l'Europe. Il y a vraiment qu'au niveau des dépenses, je regardais les dépenses sociales avec notre voisin allemand, où effectivement le coût global est à peu près comparable. Mais on le sait depuis longtemps. Le poids de la fiscalité, les impôts de production, tout ça est bien trop élevé par rapport aux autres, à nos voisins.
Même question à l'autre économiste de la table avant de passer au chef d'entreprise qui est directement en contact avec la vie des entreprises. Frédéric Farah, la France est-elle en train de décrocher?
On pourrait regarder le verre à moitié plein le verre à moitié vide. Alors évidemment, si on regarde les finances publiques, par exemple, on peut dire oui, ça va pas. Mais de l'autre côté, alors, je ne veux pas être d'un optimisme débordant, nous restons un des pays les plus attractifs d'Europe, je rappelle.
Numéro un pour les investissements étrangers en Europe, le baromètre EY.
Soit on pense que les investisseurs ne comprennent rien, donc ils viennent chez nous, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont complètement à côté de leur pompe, soit on peut leur faire confiance, ce qui serait plutôt mon cas, et s'ils viennent ici, c'est bien pour une raison. Donc, ça veut dire que c'est une première chose. Deuxièmement, on décroche relativement, parce qu'en termes de coût du travail, on a fait considérablement des progrès par rapport à nos voisins et par rapport, particulièrement par rapport à l'Allemagne.
Oui, on a gagné près de 15 points de compétitivité depuis quelques années.
Donc c'est quand même plutôt encourageant. Trois, aujourd'hui en termes de croissance, plutôt l'homme malade de l'Europe, c'est plutôt notre voisin allemand, que nous, même si notre croissance elle n'est pas folle, mais en même temps il y a des événements extérieurs sur lesquels notre pouvoir reste très relatif, dans le Golfe ça s'agite paraît-il, et ça a des effets chez nous. Donc je dirais que on peut regarder les deux, il y a effectivement des choses un peu inquiétantes, mais il y a aussi des choses rassurantes quant à notre capacité à faire des efforts, quant à notre capacité à rattraper nos voisins, quant à notre capacité à attirer les investisseurs. Ce qui fait que c'est pas vouloir ménager chèvre et chou, je me dirais attention au catastrophisme tout en restant vigilant.
Oui, on a donc en tout cas un consensus du côté des économistes Bertrand Rambaud pour dire que les finances publiques, il y a un effort à faire, mais l'image, la picture, la photo de l'environnement est peut-être plus nuancée que ce que l'on pense. Vous qui êtes en contact avec des entreprises tous les jours, Bertrand Rambaud, au travers de votre fonds Siparex, est-ce que vous diriez qu'on décroche?
J'aurais peut-être une lecture un tout petit peu différente de celle de Frédéric. Oui, on décroche, en tout cas sur les sujets de rémunération, puisque je veux dire, ce qui se retrouve à la fin dans tout ça, dans la discussion,
c'est le pouvoir d'achat.
C'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet en Europe et en France. Donc je pense qu'on décroche avec ces sujets de charge, et je le vis, oui, il y a des investissements étrangers, mais on le voit, c'est les data centers, c'est la tech, sur vraiment l'emploi industriel, ce qui est quand même une base économique importante de la France, il y a un décrochage. Et juste deux mots, si vous comparez un compte d'exploitation d'une société française par rapport à une société d'un autre pays, et notamment je prends le Canada que je connais bien, les 10 points d'écart que vous exprimez tout à l'heure, mais on les lit. Donc c'est une réalité. Le constat, je pense qu'il est extrêmement clair. Alors après, quid des solutions?
Bon, on va venir alors au grand sujet du moment, qui est effectivement rapprocher le brut du net. Hier, le Haut Conseil au financement de la protection sociale, présidé par Dominique Libault, a publié un rapport pour expliquer que non, contrairement à ce qu'on entendait beaucoup, et on le dit nous très régulièrement sur le plateau des experts, les cotisations sociales n'ont pas augmenté sur les salaires depuis 30 ans. Et que donc, ça n'est pas la faute de notre modèle social si on a un problème de pouvoir d'achat en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Valérie Plagnol?
Moi, ce que j'ai entendu, et puis on va reparler de statistiques, c'est que quand même, le poids a augmenté d'un peu plus de 1%. Alors effectivement, 1% sur 30 ans, c'est pas beaucoup. Et d'où le rien. Oui. Mais un rien, c'est pas grand-chose. C'est déjà quelque chose, plutôt, comme disaient certains humoristes. Oui. Donc, je partage pas tout à fait ce diagnostic de stabilité parfaite. Et effectivement, ça s'est accompagné d'un transfert de charges et d'endettement vers d'autres points et d'autres charges qui pèsent obligatoirement sur le pouvoir d'achat. Alors, la question, effectivement, de savoir s'il faut transférer sur une assiette beaucoup plus large l'ensemble des cotisations se pose.
La TVA ou la CSG sociale.
Voilà, mais à terme égal. Ça a peut-être pas beaucoup augmenté, ça a augmenté un peu, ça n'a pas baissé. Donc, tout ça, et par ailleurs, ça a augmenté. Donc, je trouve le constat peut-être un peu trop partiel.
Il y a deux codicilles qu'il faut dire. C'est que, un, le Haut Conseil ne prend que les charges salariales.
Absolument.
Il ne prend pas en compte le super brut qui, lui, a sensiblement augmenté. Il ne prend que les 30 dernières années, si je puis dire, depuis 50 ans, ça a quand même sérieusement augmenté aussi. Mais ce transfert, Frédéric Farah, ce transfert de cotisations vers d'autres assiettes, la CSG, la TVA, c'est ce que propose le MEDEF. 30 milliards de baisse de cotisations salariales pour rendre du pouvoir d'achat aux salariés. Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, avant de répondre exactement à votre question, une remarque sur le rapport du Haut Conseil. C'est intéressant. Le choix des 30 ans, c'est pas pour faire que ça fasse rond, mais c'est important en termes d'histoire économique.
Oui.
Alors, il faut bien le préciser. Pourquoi 30 ans et pourquoi ces cotisations, si on observe du côté des salariés, n'ont pas tant augmenté et qu'on a observé à la même période, à partir des années 1990, des exonérations de cotisations sociales patronales jusqu'à hauteur de 80
milliards. C'est la mise en place des allègements de charges autour du SMIC.
Ça, c'est deux. Et trois, la montée en charge de la CSG, fin des années 80, début 90, avec une modification du financement de la protection sociale par un accroissement du poids fiscal par rapport aux cotisations. Que s'est-il donc passé pendant 30 ans, il y a 30 ans? C'est un moment clé de notre histoire économique qu'il ne faut pas oublier et qui dessine le cadre dans lequel nous évoluons.
Oui.
Alors, quel est ce cadre? Nous avons décidé de créer, il y a eu deux événements, la libre circulation des capitaux en Europe à partir du début des années 90, plus le traité de Maastricht. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie concrètement que le capital va avoir une liberté de manœuvre supérieure à celle du travail. Il sera donc plus mobile. Que dit-on en économie ? On dit en économie que le facteur de production le moins mobile, c'est sur lui que porte l'ajustement, parce qu'il ne peut pas aller plus vite que l'autre.
Oui.
Donc, à partir du moment qu'on rentre dans ce cadre, quel est l'horizon de la politique économique partout en Europe ? C'est la compétitivité. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut contenir le coût du travail, parce que sinon, on va dégradation de notre compétitivité, et il faut faire en sorte que les entreprises ne se retrouvent pas lestées là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Autrefois, quand on avait des besoins pour notre protection sociale, on jouait avec les cotisations sociales. Là, on a dit, c'est plus possible parce que l'environnement macroéconomique n'est plus le même. Donc, conséquemment, on s'est posé la question de comment on va faire pour réduire le coût du travail. Et qui a commencé à lancer...
Avec un chômage très élevé à l'époque, voilà. Autour du SMIC.
Exactement.
Il y avait vraiment l'idée de doper l'emploi.
Doper l'emploi. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On voyait les emplois peu qualifiés disparaître. Donc, on a dit... on va exonérer les cotisations sociales. Qui est allé plus vite dans la musique que nous à une époque, à la fin des années 90, c'est les Allemands, avec le calendrier Schröder et les réformes Schröder. Donc, en Europe, la question du coût du travail est devenue la question centrale, donc du financement de la protection sociale, puisque quand on a financé la protection sociale sur des cotisations sociales, cet environnement macroéconomique des années 50 aux années 90 n'était pas celui-là.
Oui.
Donc, à partir du moment où vous avez changé le cadre macroéconomique, vos sources de financement, votre modalité de financement de votre protection sociale ne peut plus être exactement la même que celle du passé. Donc, effectivement, on a dit, on va aller vers une fiscalisation. D'où la montée en charge de la CSG de 90 à nos jours, de manière indiscutable.
Oui. Même si... qui a pesé sur le pouvoir d'achat, ce que vous nous dites, c'est que les impôts ont dû augmenter sur le travail.
Ben voilà. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation, d'où la question des salaires. Surtout, je dis juste une dernière chose, n'oubliez pas, je regardais la dernière décision de la BCE, il y a toujours cette crainte que si les salaires s'emballent un peu trop, il va avoir de l'inflation. Donc, s'il va avoir de l'inflation, effet de deuxième tour, donc il faut resserrer la politique monétaire. Donc, vous voyez bien, je pense que toutes ces questions pour analyser les propositions des uns et des autres doivent se faire avec ce cadre macroéconomique à l'arrière.
Alors, c'est un rappel historique utile, mais est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion du Haut Conseil de financement
pourquoi,
de la protection sociale
moi,
pour
suis,
dire que non, les
je suis d'accord sur l'idée
augmenté.
Que les cotisations n'ont pas tant augmenté. Après, on peut faire ces codicilles que vous faisiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème de la proposition du MEDEF, c'est cette exonération. Elle a fait l'objet d'un débat de très nombreux rapports, Vasmer, Bozio et autres.
Bien sûr, pour Antoine Fouché que... le pousse encore aujourd'hui.
Voilà,
c'est un peu la réponse de Dominique Libault à Antoine Fouché.
Et de dire que peut-être là-dessus, il faut être relatif sur l'impact positif. Donc je pense qu'il faut garder le débat ouvert.
Donc vous, plutôt contre ?
Oui, plutôt.
Plutôt contre la TVA sociale. Bertrand Rambeau.
Écoutez, je ne suis pas allé vérifier les chiffres entre les deux calculs qui ont été faits. Je pense de toute façon, enfin, votre diagnostic est excellent. Non, mais il faut le faire. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, on n'a pas le choix de faire bouger nos modèles. On n'a pas le choix de faire bouger la table très fortement, de la renverser. Et je pense que c'est une solution. Je voudrais juste mettre un point en exergue que moi, je vis à travers mes entreprises. On voit aujourd'hui, pour la première fois depuis quelques mois, vraiment l'impact de la crise des finances publiques sur la commande publique dans les entreprises.
Ah,
parce que avant, c'était un sujet un peu intellectuel. C'était le sujet du trésor de se refinancer, si on fait simple. Aujourd'hui, ça commence à toucher la vie économique. Ça touche nos entreprises. C'est vrai sur la transition énergétique. C'est vrai sur la formation. On l'a vu. Des petits sujets comme ça qui avancent. Et donc, on est dedans. On est dedans. On a bien vu sur les problèmes du carburant récemment, l'État n'a pas pu prendre de mesures d'aide.
On a ciblé les mesures.
On est là-dedans. Et donc, si on ne bouge pas sur des mesures fortes, en fait, ça va se faire, cet ajustement, il va se faire de façon extrêmement insidieuse et je pense encore plus grave pour le fond de l'économie et des personnes. Donc, on est face à ça aujourd'hui et ça sera un énorme enjeu de 2027, c'est certain.
Ah, ça, on aura l'occasion d'en reparler effectivement. Bon, quand on se regarde, parfois on se désole. Quand on se compare, on peut parfois se consoler. C'est peut-être le cas de la Grande-Bretagne. Ça fait 10 ans aujourd'hui, 10 ans que la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit. Question simple ce matin, est-ce que la Grande-Bretagne a repris le contrôle ? On parle économie ce matin, mais a-t-elle aussi peut-être perdu le Nord ? On voit situation politique compliquée. On va toucher un mot de la démission de Starmer et de la nomination de son successeur, Burnham, le maire de Manchester. Mais Valérie Pagnol, je commence avec vous d'abord. Le bilan économique de 10 ans de Brexit. Bon, mauvais.
Je commence à avoir un petit souvenir. Je me souviens qu'on s'est endormi en se disant que le non l'emportait et on s'est réveillé avec le oui. Et je crois que même à l'époque, Nigel Farage avait été assez étonné.
Quelle surprise.
Et Boris Johnson aussi, les artisans de ce Brexit. Et effectivement, le bilan n'est pas très bon, pour dire le moins. Je me souviens, pour parler d'une des promesses qui était celle d'une réorientation du commerce anglais vers... Oui. Par exemple, l'ancien Commonwealth, ou le Commonwealth pour ce qu'il en reste.
Il s'agissait de faire le Singapore and Thames.
Voilà, ça n'a pas été particulièrement probant. Mm. Pour le moins, l'Angleterre reste attachée à l'Union européenne du point de vue cyclique aussi. On va revenir sur ce point, mais je dirais aussi que nous y avons perdu.
Pourquoi?
La France et l'Europe. C'était un partenaire, et c'est un partenaire important. Et ces dernières années, et notamment dans le contexte de difficultés, de tensions géostratégiques, la coopération avec le Royaume-Uni est très importante. On a une coopération énergétique et des interconnexions très importantes. Et ce rapprochement est peut-être en continuité, puisque le Labour est quand même plus favorable à ça. Et pour l'instant, on assiste à une transition à l'intérieur.
Et se rapproche de plus en plus de l'Union européenne.
Et se rapproche de l'Union. Et sur la défense, on a toujours été plus proche des Anglais que certains autres partenaires européens. Donc, je pense qu'on y a perdu aussi. Et tout ça est bien dommage. Et
donc,
du point de vue des transferts financiers, ça n'a pas été non plus extraordinaire, mais un peu.
Frédéric Farah.
Alors, plusieurs choses à dire. Premièrement, moi, j'étais pas surpris du résultat, non pas parce que je sais mieux les choses que les autres, mais comme la Grande-Bretagne, depuis qu'elle est rentrée dans l'Union européenne, a été toujours un pas devant, un pas dehors, donc ça m'a pas surpris. Je veux dire, on peut pas dire, si on m'en avait parlé d'un pays, par exemple, qui a été très europhile, l'Espagne, le Portugal, à des moments du temps, on aurait dit, bon, c'est bizarre, les Portugais, ils s'en vont, les Espagnols, ils s'en vont.
Ah oui, mais quand même, la Grande-Bretagne est installée depuis des décennies, on avait l'habitude qu'ils soient le poil à gratter.
Je veux dire, I want my money back.
Bien sûr.
Donc, d'une certaine manière, qu'il y avait un fond eurosceptique chez les Anglais, je suis pas tombé de ma chaise quand je l'ai découvert il y a 10 ans. Mais c'était surprenant. Mais ce que je veux dire, c'est que le Brexit a exacerbé, a compliqué la situation d'une économie qui était déjà pas en très très bonne forme au moment du Brexit.
Ah oui.
C'est-à-dire que l'économie de la Grande-Bretagne, comme d'autres économies européennes, connaissait une désindustrialisation qui était quand même préoccupante, et reposée sur deux piliers qui interrogeaient l'immobilier et la finance. Mmh. Bon. Et quand le Brexit arrive, l'Angleterre connaissait déjà des situations en termes économiques, de pauvreté, d'inégalité, de désindustrialisation qui n'étaient pas très jolies. Le Brexit n'a pas arrangé les choses, certes, mais en même temps, je regardais les statistiques en venant, c'est que quand même le PIB britannique, entre cette date et aujourd'hui, a progressé d'environ 12%, donc ce qui n'était pas si catastrophique par rapport aux voisins. Et de toutes les façons, avec ou sans Brexit, il y a une réalité économique. Est-ce que les échanges avec la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne continuent de manière significative? Oui, parce qu'on peut pas faire sans, etc. Et puis en même temps, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu fou. Comme aujourd'hui, on est dans une segmentation de la chaîne de valeur. Une partie de la production britannique est faite en Europe. Donc si elle revient en Angleterre, elle est taxée par les Britanniques. Ça n'a pas trop de sens, si vous voulez. Donc, je pense que le bilan n'est pas extraordinaire. Il y a une grave instabilité politique en Grande-Bretagne, ce dont ils n'avaient pas l'habitude. Et ça, c'est pour l'environnement économique, c'est pas terrible.
Bertrand Rambaud, la place financière de Londres.
Oui, reste.
C'est évidemment le sujet majeur. Alors, on a beaucoup dit qu'en France, on avait bénéficié, que Paris devenait la première place européenne grâce au Brexit, mais Londres a plutôt bien résisté, non, en termes de services financiers.
Oui, Londres a très bien résisté. Ça reste une place financière énorme. Je veux juste parler de ce que je connais le mieux, mon métier, l'actif privé, le private equity, la dette privée, les infrastructures. Ça reste le premier marché en Europe, au sens large, géographique. Avec quand même, parce que qu'est-ce qui fait ce ciment anglais différent du ciment français qui reste très fort, c'est l'attirance des capitaux anglo-saxons. Et donc en fait, ça reste un marché de très grands investisseurs, de grosses opérations. Alors la France, pendant ce temps, au cours de ces 10 ans, Alors, est-ce que c'est lié au Brexit? Ça, je ne sais pas. Je pense pas directement, mais a beaucoup progressé. Donc, une année dans
on a fait beaucoup d'efforts pour l'attractivité.
Voilà, exactement. Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est une réalité. Et une année, les Anglais sont devant. Une année, les Anglais sont derrière nous. Ça, c'est quand même nouveau. Mais là où c'est très différent, c'est que nous, l'argent qui arrive en France, il s'investit dans les entreprises françaises, tandis que Londres est un hub. Est un hub international et l'argent est géré à Londres et repart à l'extérieur et ça reste. Le deuxième point, c'est que c'était il y a 10 ans, je me rappelle du réveil du matin, du vendredi matin.
Oui.
C'est pas probant et surtout que depuis 10 ans, le monde géopolitique a changé et on peut plus être isolé. C'est pas possible. Il y a des blocs dans ce monde.
Oui.
Et on a besoin de faire bloc au-delà des enjeux financiers. Et je pense que voilà, il faut à mon sens sortir de ça. Parce qu'il faut que notre Europe géographique soit forte.
Dans la conjoncture actuelle, en plus, un gouvernement travailliste face à la fameuse special relation avec les États-Unis est quand même mis à mal. Et ça n'aide pas ces gouvernements. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur les projets du prochain Premier ministre.
Alors allons-y, Andy Burnham, est-ce qu'il peut appliquer à tout le pays son modèle de Manchester?
Ça paraît
investissement
compliqué.
Public, renationalisation, enfin c'est surprenant.
Il a dit un peu tout et son contraire, parce que effectivement, il a une politique. Il a beaucoup critiqué cette politique d'économie budgétaire. En même temps, il veut rassurer les marchés en disant qu'il va garder la même chancelière
de l'échiquier.
Qui a assumé quand même l'économie. L'économie, absolument. Donc, pour l'instant, c'est un peu difficile de tirer des conclusions claires de ce qui va se passer. L'éléphant dans la pièce, c'est le parti Reform UK. J'ai beaucoup de mal à l'appeler Reform parce qu'il est surtout très conservateur.
Oui,
mais il prêche un peu l'opposé de ce qu'il annonce. Et c'est bien l'enjeu pour le Royaume-Uni.
Frédéric Farah.
Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, les travaillistes, par moment, depuis un... ne savent plus trop où ils habitent.
Hein. Ouais.
Parce que, à un moment donné, ce qui a tenu lieu pour les travaillistes de lignes de direction, et avec lesquels aujourd'hui ils sont embarrassés, c'était le blairisme. Voilà. C'était Tony Blair, c'était...
New Labour.
Le New Labour, c'était la troisième voie, c'était une façon à la fois d'intégrer ce qu'avait fait le thatcherisme, en y mettant une sauce travailliste. On a essayé de trouver une espèce d'hybridation. Ce truc a un peu explosé. Et on parlait de changement d'époque. Soudain, quand on repense à Tony Blair, on a l'impression que les années 90, c'était il y a 150 ans. Hein. Bon, pourtant, c'était hier. Et donc, il y a maintenant une course à... est-ce qu'on revient à un modèle plus travailliste, pur jus, on refait de la renationalisation, on remet de l'État, est-ce que au contraire, il faut garder de l'héritage précédent des choses? Et on voit bien que ce parti est un peu sur le reculoir. Et là, je reprends ce que vous étiez en train de dire. Ce qui est en plein dynamique, c'est plutôt Reform, qui est évidemment... et qui est symbolique pour les travaillistes. C'est qu'un peu partout en Europe, les gauches européennes, on les appellera comme on voudra, sont plutôt sur le reculoir qu'autre chose. Ça, c'est un phénomène politique qui traverse à peu près tous les pays à l'heure actuelle.
Oui, la Grande-Bretagne n'est pas isolée.
Non, la Grande-Bretagne n'est pas isolée. Après, c'est évident que la Grande-Bretagne, d'un point de vue géopolitique, je le rappelle qu'en Europe, on avait... deux armées significatives pour faire quelque chose, nous et les Britanniques. Pour le reste, je ne veux pas être vexant à l'égard de nos partenaires, pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais techniquement et militairement, les deux poids lourds de l'affaire, c'était les Britanniques et nous. Donc, quand les Britanniques sont sortis, on se retrouvait un peu tout seul dans l'aventure, ou sachant qu'en plus, aujourd'hui, il faut poser la question de la défense européenne, parce qu'on a compris que nos alliés américains, surtout en version Trump, étaient plutôt assez illisibles dans ce qu'ils voulaient nous concernant.
Oui. Bertrand, un dernier tour de table peut-être sur le rapprochement européen. Ils en parlent de plus en plus, 10 ans après le Brexit, nos amis britanniques.
Oui, après l'Angleterre, à son histoire, restera cette île qui est vraiment ancrée chez eux. Ça restera une place financière très dominante. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'interrogation à avoir.
Et juste une chose, c'est que, en fait, l'Angleterre par rapport à l'Europe, c'est intéressant. Si vous voulez, pour l'Europe, il y a 3 voies possibles, il n'y en a pas 40. Soit ça ne devient plus qu'une vaste zone de libre-échange complètement diluée, et c'est un peu ce que voulaient les Britanniques. Soit effectivement, c'est un retour sur...
est-ce que c'est un marché ou une construction politique?
Voilà. Soit on revient aux États-nations, c'est ce que certains ont pu vouloir. Troisième voie, une forme de fédéralisme. Voilà les trois.
Et on est toujours dans cette.
Et on est toujours dans cette espèce de tension. Soit on dilue tout dans une vaste zone de marché parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Soit on revient chez nous en disant bon, le voisin à côté, il est un peu louche, on l'aime plus trop. Soit on tente de faire des formes de fédéralisme acceptées, acceptables, etc. Mais on n'est pas sorti de là. Et d'une certaine façon, si demain l'Europe se diluait dans une vaste zone de libre-échange, que l'Angleterre revienne ou pas, la tentation qui était la sienne l'emporte en partant. C'est ça qui est paradoxal, vous voyez.
Donc, si c'est le retour du UK, si je vous comprends bien, Frédéric Farah, on est de retour sur une idée de on va refaire le marché, mais pas d'objet, mais voilà, pas de construction politique. C'est un peu le sujet des extrêmes droites aussi qui poussent absolument de partout. C'est-à-dire que on ne quitte plus l'Europe. Ils ont bien vu que les populations ne le souhaitaient plus. Le RN a abandonné l'abandon de l'euro, ne parle plus de Frexit, ce mot a disparu de leur vocabulaire, ils veulent maintenant le changer de l'intérieur.
Voilà, et c'est... Voilà. Et pardonnez-moi, allez-y, je vous en prie.
La difficulté, justement, est entre le propos et l'intention, parce que la réalité, effectivement, de ces mouvements populistes, c'est qu'elles restent quand même... peu ou même anti-européen. On est quand même dans plus de nationalisme, clairement, plus de protectionnisme, plus de fermeture des frontières. Et c'est même plus le débat autour d'un fédéralisme ou pas. Cette dimension supranationale et de transfert d'une partie des souverainetés dans un espace politique plus large, y compris dans la réussite et dans l'abaissement des frontières, est quand même encore remis en question. Et c'est vrai que c'est le danger aujourd'hui, mais je suis une pro-européenne convaincue.
Mais c'est ça aussi un enseignement du Brexit qu'ont tiré ces forces-là. C'est-à-dire, quand ils ont vu le temps que ça a pris pour faire ce traité de sortie, les milliers de pages et les milliers de réunions qu'il a fallu, ils se sont rendus compte que c'était une voie à la fois politiquement, économiquement coûteuse. Donc, changement de stratégie. Et qu'est-ce qui fait que le RN a réintégré le jeu politique français ? C'est qu'il a dit « n'ayez pas peur ». Est-ce que je vais sortir de l'euro ?
Je ne casse pas.
Jamais de la vie.
Je modifie l'intérieur.
Est-ce que je vais faire du Brexit ? Jamais de la vie. Voilà. Donc je pense que la force de ces forces politiques...
Je demande des exceptions. Je ne demande que des exceptions.
C'est d'utiliser les institutions européennes à des fins qui le sont les leurs. Ouais. Et qui apparaît beaucoup moins coûteux politiquement que de s'en lancer dans des opérations de sortie diverses et variées.
Vous voulez ajouter un mot rapide ?
Voilà, mais rapide. Je suis très vigilant et attentif sur ces mouvements souverainistes parce que derrière les grands discours, il se cache quand même des vraies philosophies. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin impérativement d'une Europe très forte. Alors, je parle au niveau économique, mais au-delà, c'est absolument indispensable. Et donc, attention à ça, on en voit les conséquences sur l'Angleterre au niveau économique ces dernières années. Donc, je pense qu'il faut impérativement lutter contre ça. Et lisons bien les programmes de chacun. Parce que vous verrez que derrière, en filigrane, il y a un souverainiste fort qui revient. C'est un grand danger.
Et une fragmentation.
Et la chose très importante, c'est tout à l'heure, pour terminer, on évoquait les tensions sur les finances publiques. Aujourd'hui, on a des problèmes majeurs à résoudre en européen. C'est-à-dire, par exemple, le changement climatique, vu ce que ça réclame comme montant, ça peut pas se faire tout seul.
Oui, et la défense, par exemple. Allez, on passera à un autre sujet après la coupure pub. Restez avec nous, on va parler des fonds vautour, de ce rapport parlementaire. Faut-il protéger les entreprises de leurs sauveurs ? C'est un titre un peu provoque, mais on va voir ce qu'en pensent mes invités. Et puis, on finira avec Alan Greenspan, décédé hier à 100 ans. Alan Greenspan, génie des marchés ou père de la crise financière ? On se retrouve dans une minute, ne quittez pas.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts, l'émission qui vous aide à vous rendre l'économie plus claire, je l'espère. Et on va parler fonds vautour après la publication de ce rapport. C'était il y a quelques jours. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans l'émission. Ce rapport publié par Aurélie Trouvé, présidente LFI de la Commission des affaires économiques sur les fonds vautours. Alors évidemment, ils promettent de redresser des entreprises en difficulté et de l'autre côté, certains repartent parfois avec la trésorerie, les actifs et les aides publiques. C'est ce que dénonce le rapport de l'Assemblée nationale. Vous êtes un professionnel du private equity, Bertrand Rambaud. Qu'en pensez-vous ?
Fonds vautours, déjà dans le titre.
Déjà dans le titre, ça donne un peu la coloration politique.
Ça donne la coloration. Bon, c'est un rapport.
Est-ce que ça existe ? On peut commencer par une question toute bête.
Mais bien sûr que ça existe. Tout existe. Dans toute industrie, il y a des gens qui se comportent pas bien. Mais après, il y a le particulier et puis il y a le général. Ce rapport, sans en parler trop, mais il est à charge, péremptoire, démagogique, dogmatique, enfin je pourrais lister beaucoup de mots. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que vous savez qu'il y a un rapporteur qui est cette personne, puis il y a un président de la commission.
Oui. Qui lui-même a pris ses distances.
Qui lui-même a beaucoup pris ses distances. Il a dit parfois il y a des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc dans ce rapport, on a parlé que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, il y en a. Et vous savez, moi je suis allé, je l'ai lu bien sûr, et puis je suis allé regarder aussi quelques interviews au cours de cette commission d'enquête. France Invest, BPI France, oui. Qui ont donné des éléments factuels sur ce marché. Rien n'a été repris. Rien n'a été repris. Et uniquement les histoires où ça s'est pas bien passé. Bon, et je crois que moi c'est choquant parce que c'est une élue de la République et je pense que quand on est élu de la République, on a quand même un devoir d'avoir une honnêteté intellectuelle par rapport aux informations qui vous remontent. En tout cas, c'est mon humble avis. Et je pense qu'il faut toujours revenir sur les faits parce que vous savez dans ce rapport il y a à la fois il y a deux grandes parties. Il y a une partie sur les fonds qui rachètent des entreprises en difficulté et puis il y a une partie sur les LBO, les opérations de transmission.
Très décrié fut un temps les LBO. Hein.
Et très décrié.
L'achat d'entreprise par endettement, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui paye le crédit avec lequel on l'a racheté, grosso modo, et qui a parfois tendance à serrer un peu.
Moi, je reviens toujours aux faits dans ce genre de situation et je dis souvent les chiffres sont têtus. Je regarde juste les chiffres.
Oui.
Les chiffres en France, le private equity, et on en parlait tout à l'heure avec UK, en France, c'est 8 000 entreprises, c'est 2,5 millions d'emplois. Quand je regarde sur la période 2019-2024, combien d'emplois créés ? Plus de 300 000.
300 000 emplois créés par Private Equity en 5 ans.
Sur cette période. Je regarde le nombre d'opérations de LBO. Par an, il y en a à peu près un peu plus de 700 en France. Les accidents, 5%. Donc 95% de succès. Puis je suis allé voir chez moi, dans mon groupe, sur 10 ans, dans les opérations de LBO, si j'avais eu des liquidations judiciaires. En 10 ans, j'en ai pas eu une. Alors je ne dis pas que tout a été exceptionnel, parce qu'on a eu des parcours parfois chahutés, parce que c'est la vie économique.
Oui.
Mais voilà, donc il faut juste rappeler ça. Alors après, bien sûr, il y a parfois des opérations qui peuvent être mises en place avec des effets de dette, ce qu'on appelle levier, qui peuvent être excessifs par rapport à des modèles économiques qui ont leurs histoires. Ça, évidemment, c'est la vie de l'entreprise. Et je rappelle, vous savez, quand le métier du capital investissement a été créé, ça s'appelait capital risque.
Oui.
Voilà, juste risque. Donc dans capital, il y a risque. Et si on prend un peu de la hauteur, à quoi servent ces opérations dites de LBO ou de transmission ? Alors, le gouvernement, très récemment, et il a eu raison, a mis en exergue cet enjeu de transmission des entreprises. Moi, j'en entends parler depuis 30 ans que je fais ce métier. Mais là, ça ne fait que s'accroître. Le LBO est un des moyens pour permettre à des entreprises de se transmettre avec des managers qui rachètent la société,
oui,
aux côtés de fonds d'investissement, qui associent des salariés, qui associent des dirigeants, qui mettent des dirigeants en capital. Et je peux vous en raconter plein d'histoires où on a pu assurer des transmissions, garder l'indépendance de ces entreprises, les conserver sur le territoire français. Et je m'inscris en faux, mais totalement en faux, sur l'absence d'investissement de ces entreprises. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner de sociétés qui, je dirais, ont continué à croître, continuent à investir. Et quelque part, et je dis souvent qu'une société qui a un investisseur à son capital a un taux de croissance double de celle qui n'a pas eu accès à un investisseur, parce que ça apporte de l'argent, mais autre chose.
Frédéric Farah, elle a fait de la politique, là, Aurélie Trouvé, point barre, sans s'arrêter sur les chiffres et la réalité des faits que vient de décrire
Bertrand. Je pense que la politique n'est jamais loin, alors je vais répondre, mais je vous soumets une citation, vous devez me trouver l'auteur, d'accord ? Alors, pendant plusieurs décennies, on a créé les conditions dans lesquelles l'industrie se trouvait soumise à la logique de la rentabilité financière à court terme. Qui a dit ça ?
Il y en avoir beaucoup.
François Hollande.
Non, eh bien, discours de Toulon, 22 septembre 2008, Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy, effectivement.
C'est amusant.
N'était pas le moindre des politiques non plus.
Voilà, mais je dis ça parce que, bon, l'instrumentalisation, l'utilisation de la réalité économique dans le discours politique n'est pas que le fait de la France insoumise. Même
on est bien d'accord.
Un ancien président de la République lui-même le disait dans le discours de Toulon. Je suis tombé là-dessus en travaillant l'émission. Bon. Alors, plusieurs choses à ce sujet. Un, évidemment, tous les rapports parlementaires font toujours l'objet d'une certaine méfiance. Récemment, sur l'audiovisuel, on a dit...
Absolument, très politique aussi.
Il était très politique, est-ce qu'il n'était pas en train de régler ses comptes avec qui on ne sait quoi ? Même chose pour Mme Trouvé, est-ce qu'elle n'est pas en train de faire de la politique ? Alors, c'est toujours un peu embêtant parce que...
Mais sur le fond.
Sur le fond. Je pense qu'il y a une question qui se pose et qui est et qu'on peut aborder sereinement, qui est de savoir quel est l'impact positif et négatif dans certains cas de la financiarisation de nos économies. Voilà, c'est-à-dire tout simplement sans fâcher personne. Est-ce que ça apporte les financements nécessaires dont les entreprises ont besoin? Bah, très bien, circuler, rien à voir. Dans d'autres cas, il y a, vous savez, ce qui avait agité la, alors c'est un autre registre, le buyback récemment en disant, bah, ils rachètent leurs actions, les entreprises, oui. etc. Donc,
est-ce que de ça... l'argent gaspillé?
Voilà, etc. Donc, si vous voulez, je pense que, pour éviter la controverse, il y a cette question qui se pose, qui est de savoir, est-ce que les véhicules financiers, les instruments financiers, il n'y a-t-il pas des dérives, oui ou non? Et est-ce que la financiarisation, avec ses excès, doit-elle être intégrée dans notre raisonnement pour se poser la question, est-ce que c'est un problème ou une solution pour l'économie française?
Est-ce que c'est positif ou négatif?
Négatif, voilà.
L'intégrer, c'est un état de fait,
en quelque sorte. Mais c'est un élément important. C'est dommage parce que je l'ai lu, le rapport, j'ai pas fini de pioter, c'est quand même deux tomes, hein, je veux dire, je suis déjà au premier, parce que c'est important de lire la littérature institutionnelle. Il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres, on voit bien, effectivement, il y a une intention, je suis d'accord avec vous, politique. Mais, dans le fond, je pense que cette question de la finance et de son rôle par rapport à l'économie, avec la banque aussi, les réglementations du comité de Bâle ou autre, oui. mérite d'être posée, c'est tout. Mais après, je refuse la controverse gratuite.
Bon, on a droit d'avoir un avis, Frédéric.
Oui, mais parce que si vous voulez, l'économie devrait inciter à la raison et souvent ça dérive dans des passions excessives.
Ah ben, c'est tout l'intérêt de cette émission qui souhaite ancrer dans le réel des discours politiques parfois très passionnés. Effectivement, Valérie Pagnol, qu'avez-vous pensé du rapport d'Aurélie Trouvé?
Très brièvement, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Il est clair que d'un côté comme de l'autre, les rapports trop partisans ne servent pas l'objectif qu'ils ont.
Oui.
C'est évident.
Ne permet pas d'éclairer.
Ils ne permettent pas d'éclairer.
Honnêtement.
Le point de vue de l'épargnant, c'est que on cherche des véhicules d'investissement. Il n'y en a pas assez en France. Et tout ce qui peut permettre d'investir et de développer avec de l'épargne française des investissements et des entreprises en France me paraît tout à fait préférable. Et
on
c'est
parlait
vrai.
De Pierre et Vacances pendant la coupure pub qui vient d'être acheté par le fonds.
Voilà. Moi, je préférerais que, effectivement, plutôt que les incantations autour du fléchage de l'épargne, qu'on puisse permettre, effectivement, dans la liberté d'entreprendre, aussi de diriger ça. Il y a un troisième point qui me paraît quand même difficile, c'est cette volonté quand même d'administrer l'économie. Et surtout, alors là, je m'inscris un tout petit peu en faux avec vous, parce que nous l'avons vécu dans les crises précédentes, il ne faut pas ignorer ou séparer la finance de l'économie. Ce sont deux éléments constitutifs de ce monde qui est le nôtre. Et pour avoir ignoré la finance, on a aussi laissé dériver les crises, mais on va en reparler assez vite, je pense.
Oui, exactement, Bertrand.
Non, mais si vous voulez, qui aujourd'hui, en France et en Europe d'ailleurs, va financer les start-up, les PME, les ETI? Qui? Le marché coté, indispensable, des familles qui sont présentes, et l'industrie dans laquelle je suis, le private equity. Donc, à quoi ça sert d'aller verser l'eau chaude, comme cela a été fait, sur ce métier qui a sa place? 50 milliards d'euros qui se déversent chaque année dans l'économie française à travers les actifs privés, c'est une réalité. Et c'est aujourd'hui devenu un acteur incontournable du financement. On parlait tout à l'heure de l'attractivité de notre pays. C'est une réalité, c'est vrai. Moi, ce qui m'impressionne, et ça on le dit pas assez, et je vais être vraiment dans le verre à moitié plein, c'est cette dimension entrepreneuriale qu'il y a dans ce pays. En matière d'innovation, il y a deux pays en Europe qui tirent. C'est la France et l'Allemagne. Deux pays en matière de tech. Il faut quand même reconnaître que sous Macron, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez vu le succès de Vivatech la semaine dernière. Voilà, c'est une initiative purement française. C'est absolument exceptionnel. Toutes ces startups qui sont là, comment elles font pour se financer?
Et comment elles font pour grandir?
Comment elles font? On a parlé tout à l'heure de
leur... C'est le grand problème. C'est-à-dire qu'on arrive à les financer au moment du seeding, mais que dès qu'elles doivent grandir, elles partent malheureusement
à l'étranger. Et on parlait tout à l'heure, on n'a pas évoqué effectivement l'union des marchés de capitaux. Il y a un vrai sujet de l'épargne. On dit, tiens, l'épargne française, elle part financer les sociétés aux États-Unis. À un moment, il faut juste qu'on soit un tout petit peu rationnel avec ce qu'on veut faire. Donc, il faut attirer cette épargne, mais lui donner envie de s'investir ici. Et ça peut se faire à travers le côté, ça peut se faire à travers le non-coté, voilà, pour aider à développer ces sociétés familiales. Et il y a une envie de faire ça. Voilà. Et donc, je pense que c'est, que le débat existe, c'est très bien, qu'il y a eu des excès, c'est une réalité. Voilà. Après, il faut juste revenir à l'essentiel. Et franchement, vous savez, dans ce pays, il y a des choses qui marchent bien quand même.
Oui.
Et l'industrie du capital investissement française, elle marche bien. Elle est performante. Elle existe, elle apporte une vraie création de valeur.
Mais juste une chose. Par rapport à la première question, est-ce que ça va bien, ça va mal, on décroche. Bah, on est un pays qui, je pense que vous le confirmerez. Je veux dire, on ne manque pas d'épargne chez nous. Hein, je veux dire, on n'en manque pas d'épargne. Donc ça veut dire, si on ne manque pas d'épargne, ça veut dire très concrètement, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Et si cette épargne n'est pas pleinement employée, on vit en dessous de nos moyens.
On vit quand même au-dessus de nos moyens, oui, mais c'est l'État qui vit au-dessus de ses moyens.
Mais c'est-à-dire que quand même...
On a plus de 50 ans de déficit derrière nous. Voilà.
Hein. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est quand même nos épargnes, l'épargne américaine, bof bof, hein, je veux dire. C'est clair. Donc, mais le problème, et ça fait plus des années 90 à nos jours, l'épargne européenne finance la croissance des autres.
Voilà en partie, le problème. Oui, les drames. Et puis beaucoup de dettes, peut-être plus que d'equity aussi, et de fonds propres des entreprises. Allez, il est 9h passé de 13 minutes, vous êtes toujours en direct sur BFM Business, c'est les experts, et on va passer au dernier thème, on va continuer à parler marché. Un grand homme des marchés, Alan Greenspan, le président de la Fed, ancien président de la Réserve fédérale américaine, est décédé hier à l'âge de 100 ans. Et une question ce matin, Valérie Pagnol. Est-ce que c'était un génie des marchés ou est-ce que ça a été le père de la crise financière de 2008 ?
J'aurais envie de dire ni l'un ni l'autre. J'ai une certaine admiration personnelle pour l'homme et puis c'est un homme de son
ça
siècle.
Ça a été l'oracle hein, pendant près de 20 ans.
Ça a été l'oracle et il a été porté au nu comme il a été déconsidéré. Mais je voudrais revenir sur 2-3 points. Alors de sa biographie personnelle, c'est le fils d'un agent de change. Il est né en 1926, c'est-à-dire que c'est un enfant aussi de la crise de 29. Il n'a jamais eu de doctorat en économie, mais il a suivi l'économie et la montée en puissance de l'observation de l'économie. Par la statistique tout au long des années 50-60. C'est plutôt un homme proche des républicains, mais qui a certainement connu son heure de gloire avec les présidents démocrates dans les années 90, qui est quand même la plus grande période, la plus longue période de croissance des États-Unis, la fameuse grande modération. Et c'est vrai qu'il a quand même, je crois, changé un certain nombre de choses. C'est aussi l'héritier d'une situation économique qui avait été en partie redressée, mais durement par Paul Volcker, quand il est arrivé à la tête de la Fed. Il a géré et plus géré des crises financières, c'est vrai. Je pense qu'il
de
a beaucoup
changé. Il a traversé quand même le krach de 87, la crise asiatique.
Il est arrivé à ce moment-là.
L'effondrement de LTCML, LTCM, le fonds, l'éclatement de la bulle Internet.
Absolument.
Connu. Incroyable.
Il a été quand même un des hommes, je crois, sur lequel on a le plus écrit en tant que banquier central.
Oui.
Y compris le fameux livre Woodward, Le Maestro, qui a probablement été excessif dans l'apologie du personnage. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est l'héritage quand même de la Fed, du fonctionnement de la Banque centrale et sa capacité à avoir accompagné quand même ce qui n'était pas de son fait, mais de celui du législateur, c'est-à-dire la déréglementation, l'ouverture des marchés.
Oui.
Et ça, il l'a complètement accompagné. J'ajouterai quand même un mot, LTCM, il l'a formidablement géré. C'est-à-dire que l'autorité de la Fed, qui en un week-end a réuni l'ensemble des banques pour éviter cette crise, a été un moment fort. Mais c'est vrai aussi que cette croyance dans l'auto-régulation des marchés lui a coûté cher.
Oui, ça lui a coûté cher.
Ça a été quand même l'injection de liquidité absolument massive qui ont un peu lancé les prémices de la crise de 2008, diront certains.
Oui, mais
et l'auto-régulation qui fait que les subprimes, plus personne n'y comprenait rien, mais que tout le monde s'est gavé pour parler vulgairement pendant des années et que ça nous a pété à la figure.
Tout à fait, là-dessus, c'est à mettre dans la partie passive du bilan. Mais l'homme était lucide. Car, je rappelle, lors de l'audition au Congrès, le 23 octobre 2008, face à M. Waxman, qui lui pose la question que, je traduis, hein, j'ai ça sous les yeux en anglais, qui lui dit, dans d'autres mots, vous pensez que votre vision du monde, votre idéologie n'était pas juste, elle ne marchait pas. La réponse de Greenspan, absolument. Donc, et précisément.
Il a fait son mea culpa.
Il fait son mea culpa en direct devant Waxman le 23 octobre 2008 au Congrès, qui l'interpelle. C'est honnêteté, parce qu'il aurait pu, par des manœuvres dilatoires de discours, dire non. Mais à la question que Waxman lui pose, il répond, mais sans même hésiter, que oui, il reconnaît qu'il s'est trompé. Donc, effectivement, et d'ailleurs, sur cette dérégulation, il y a eu tout le débat. Lorsque l'on s'est séparé, à l'époque clintonienne, de ce qui avait été un pilier de l'organisation financière américaine, qui était le fameux Glass-Steagall Act.
Oui, de la séparation des activités bancaires entre la banque
et en 99, cette chose est abandonnée.
Réseau commercial.
C'est pas lui qui est à l'origine de cet abandon, hein, parce que il faut pas dire. Mais disons que sa réflexion, sa pensée, etc., ont eu, comment dire, des conséquences lorsqu'il y a eu cette loi de 99 qui a été portée par les démocrates. Et alors c'est amusant, alors je vais faire un pli. C'est amusant parce que là où parfois la dynamique de la finance se fait le plus, c'est pas dans les camps auxquels on pense. C'est les démocrates, ils sont pas des républicains, moins que Clinton, c'en était un autre. Et je rappelle qui a aussi organisé la place de Paris pour que la finance soit possible, c'est la loi de 84, c'est organisé par les socialistes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être attentif à ces jeux d'histoire où finalement on pourrait dire, ah, 84 c'était la droite. Non, bah non, c'était la gauche. 99 c'était les républicains. Non, c'était les démocrates. Donc attention à des frontières très mouvantes et de voir que c'est pour cela que beaucoup de raisons font du bien.
Est-ce qu'il a déresponsabilisé les marchés, Alan Greenspan, en injectant à chaque fois plus de fonds de la Fed? Ça a été le grand sujet de 2007 au moment de la faillite de Lehman. Hein. Est-ce qu'il faut rétablir l'aléa moral? C'est ce qui a dicté la décision du Trésor américain à l'époque avec les conséquences funestes que l'on a connues. Est-ce que c'est lui qui a un peu aidé à...
Je trouve que c'est toujours, bon, d'abord, moi, je souligne quand même la longévité de l'homme à la tête de cette organisation. Enfin, c'est 20 ans. Hein. C'est un parcours incroyable. Puis c'est toujours facile et difficile d'aller juger par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Une action qui s'est éteinte il y a 20 ans d'un homme qui est peut-être allé un peu trop loin sur
facile de réécrire l'histoire, effectivement.
Ouais, et
de
dire et après sur tous les sujets par nature et ceux-là qui sont tellement sensibles. En revanche, effectivement, je trouve que si on regarde un peu avec l'actualité du jour, ça pose une vraie question sur les régulations. On est en Europe et on subit tous les jours une surrégulation européenne, enfin je parle dans le domaine financier, surrégulation, une limite des banques à investir, les ratios, Bâle, etc. Et puis on a l'inverse de l'autre côté de l'Atlantique, où là où on a une dérégulation et on a vu ce qui s'est passé évidemment sur les subprimes. On voit aussi ce qui se passe un peu sur les fonds de dette privés. Hein. On a déjà parlé autour de ce plateau. Voilà. Et je crois que il y a une vraie question pour nous tous sur le juste milieu à trouver en matière de régulation. Et pour moi, je dirais ce décès à 100 ans de cette personne m'interpelle par rapport à ça, parce que je crois qu'il y a une culture fondamentale et au-delà de Greenspan aux États-Unis qui est dans leur gène sur cette immense liberté et ses côtés très régulateurs et qui est un vrai frein pour nous. On a parlé tout à l'heure de financement, on a parlé d'accès au capital, mais on en subit les conséquences en Europe aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut lui donner un hommage par rapport à tout ce qu'il a fait, ben je crois qu'il faut qu'on regarde ça avec une grande objectivité.
Oui. Valérie, puis Frédéric Farah.
Oui, alors il faut rappeler quand même, et c'est vrai qu'il est intervenu un peu tard, mais je revoyais le mouvement des taux de la Fed. Il a laissé à Ben Bernanke une position où il avait remonté, commencé à remonter les taux. Donc la réserve fédérale
montrer le graphique, hein.
est aussi un moment. Alors il y a plusieurs graphiques, mais celui orange
il est très net.
De la réserve fédérale montre qu'effectivement, à partir de 2005-2006, on a commencé à remonter les taux directeurs. C'était probablement trop tard, et ça a montré aussi les limites effectivement d'un régulateur et d'un superviseur, d'une banque centrale, quelle qu'elle soit, par rapport à un système financier qui a commencé à lui échapper, et un système bancaire. Parce que toute l'histoire de la Fed, et il en était l'héritier, c'est cette relation extrêmement difficile avec un système bancaire et un système politique américain, historiquement, anti-fédéral. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le risque. C'est les petites banques qui font faillite, mais c'est pas grave. Ça a toujours été cette situation. Et c'est vrai qu'il a été probablement aussi, par héritage, plus sensible à la déflation qu'à l'inflation. Même s'il a vécu quand même la période des années 60. Et là aussi, il a bien travaillé avec des démocrates, alors même qu'il a critiqué les démocrates dans les années 60 et il était proche des républicains. C'est beaucoup de pragmatisme, c'est aussi des erreurs, c'est évident, mais c'est aussi la limite du pouvoir d'une banque centrale. Moi, je suis très étonnée, je voudrais revenir au présent. Aujourd'hui, les marchés n'ont de cesse que d'observer et d'attendre une décision de la Fed, dont ils connaissent d'ailleurs en général le résultat, et ne fixer que ce point-là. C'est quand même peu par rapport à l'évolution de l'ensemble de l'économie.
Frédéric Farah.
Plusieurs choses. Je crois que cet homme a illustré ce que dit la jolie formule de l'économiste Pierre-Noël Giraud, les moyens chamaniques de la politique monétaire. Oui. C'est-à-dire ce que Pierre-Noël Giraud disait, c'est-à-dire ce qui est le plus important aussi, c'est pas simplement manipuler des taux, mais c'est la communication.
Mais oui.
On dit.
Et Greenspan disait, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé.
Voilà. Et il disait, et dans son traité sur la finance, Pierre-Noël Giraud dit, les moyens chamaniques. Je trouve que cette formule est assez heureuse. Et deuxièmement, il y a un truc qui devrait nous interroger. Alors, qui associe Greenspan, mais qui va au-delà de lui. Il y a quelque chose qui s'est interrompu. Tous les 7 ans, on avait droit à une grande crise. 87, 94, 2001, 2008. Ça fait 7. Depuis, doit-on dire que les banques centrales, par leurs actions ou autres, ont fait que, depuis 2008, de crises de ces ampleurs qu'il y avait tous les 7 ans, ont disparu du secteur. Est-ce que ça va revenir sous une forme plus brutale ou autre ? La question des banques centrales est essentielle dans cette histoire. Et par rapport à ce que vous disiez sur les traditions américaines, c'est passionnant, mais absolument passionnant quand on se plonge dans l'histoire économique, les rapports qu'ont les banquiers centraux aussi avec le pouvoir politique américain sur les termes de leur mandat, c'est ce qu'ils doivent faire.
Ah bah c'est la bataille de l'indépendance. Hein,
voilà, c'est la bataille de l'indépendance
aujourd'hui. Hein,
mais
Donald Trump.
Si on devait comparer deux banquiers centraux qui ont joué un rôle essentiel, Alan Greenspan évidemment, qui a été au cœur de ce mouvement de dérégulation de l'activité économique, et il y avait un peu son contraire de quelqu'un qui est resté aussi longtemps à la Banque centrale, qui était Mariner Eccles. Mariner Eccles, qui était le gouverneur de la Banque centrale américaine dans les années Roosevelt jusqu'en 51, qui lui a été l'apôtre du deuxième New Deal américain pour encourager au contraire que l'État dépense plus, soutienne pour l'activité. Et il y a cette espèce de pendant de deux histoires. Et Mariner Eccles, qui est aussi un personnage incroyable sur lequel j'ai travaillé, etc. Et Greenspan, c'était deux mondes différents. C'est pour ça que si on veut avoir un regard sur l'économie américaine, son histoire, regarder les rapports entre le fédéral et la Fédérale Réserve, c'est passionnant.
Et où est-ce que se place Kevin Warsh?
Ah, ça c'est intéressant.
Ça c'est intéressant. Mais oui, évidemment, Kevin Warsh se retrouve dans une situation où on va voir quelle va être sa capacité d'indépendance, surtout que M. Trump, vis-à-vis de la Banque Centrale, traite mal ces gens-là. Il faut voir comment Jay Powell a pris dans la figure, quand même, pas rien hein, de la part. Et je trouve le calme olympien de M. Powell, qui avait été nommé par Trump lui-même, c'est absolument. Ça qui est fou.
Un dernier mot très rapide, Valérie Plagnol. Bah,
deux choses. D'abord, Jay Powell, effectivement, et comme le disait aussi Alan Greenspan, la Fed est l'objet du Congrès. C'est-à-dire que le témoignage et le testimony devant les chambres du Congrès étaient plus importants et il s'en est tenu là. Et la Chambre des finances du Congrès l'a soutenu d'ailleurs face à Trump. Ça, c'est important. Sur la communication, on sent que Warsh veut revenir un petit peu en arrière par rapport à une poussée de communication qui avait même été institutionnalisée avec les fameuses conférences de presse. Je vous rappelle quand même d'ailleurs, la BCE en avait l'antériorité.
Ça t'y dit.
Oui, ouais. Voilà.
Et merci. Juste par rapport à ce merci. Non, on va falloir qu'on rende l'antenne là. Désolé. Ah. Merci à tous les trois. Désolé de vous couper. Cher Frédéric, merci Bertrand Rambaud, Frédéric Farah, Valérie Pernet pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est BFM Entreprise spécial leadership animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, BFM Business. Toujours en direct. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.